Bienvenue dans l'émission Amphi 23, consacrée aujourd'hui aux origines historiques de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, dont on fête cette année, en 2005, le centenaire. C'est un des textes législatifs les plus célèbres de la Troisième République qui a séparé la question religieuse des affaires de la cité. Pourtant, c'est un long cheminement qui a conduit à cette séparation, résultat de tensions, de conflits, de querelles, mais aussi d'équilibres au cours des siècles qui l'ont précédé. Amphi 23 vous propose aujourd'hui de se concentrer sur la période révolutionnaire, incluant à la fois la Révolution et l'époque napoléonienne. La devise de la monarchie française, une foi, une loi, un roi, s'inscrivait dans le cadre d'un État confessionnel. Or, la Révolution ouvre une brèche qui ne s'est pas refermée depuis dans l'édifice traditionnel des relations entre Église et État et entre Église et société. En effet, la période révolutionnaire, très riche en événements, a constitué un véritable laboratoire d'expériences politiques successives. La Révolution française marque le commencement d'une ère nouvelle par deux décisions politiques majeures prises à ses débuts, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Constitution civile du clergé votée en 1790. Pour nous plonger au cœur de ces grands bouleversements historiques et au cœur des rapports de l'Église et de l'État, j'accueille Yves Brulé, chargé de mission à l'Académie des sciences morales et politiques pour la commémoration du centenaire de la loi de 1905. Yves Brulé, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous définir l'apport de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen concernant la religion ?
C'est évidemment l'un des aspects essentiels de la Révolution dès 1789, c'est que le principe essentiel, celui de la liberté religieuse, est posé dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. On dit ceci, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » On trouvera une formulation assez proche dans la loi de 1905, qui reprendra ce thème-là.
D'ailleurs, on parle d'opinions, même religieuses, et pas de religion. Comment expliquer ces choix ?
Cela s'inscrit dans un point capital, qui est celui de la Révolution, qui met fin à la monarchie de droit divin. Quitte un régime dans lequel la politique est fondée sur un principe sacré, on arrive sur un régime dans lequel la politique est désacralisée, et au fond, si l'on peut dire, ce n'est plus le roi qui est souverain en France, c'est la nation. Et la nation, elle peut être composée de gens qui ont des religions différentes. Donc l'égalité vient compléter la liberté que l'on vient d'énoncer dans les droits de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, comme l'État n'a plus une religion, une seule confession, au fond, il y a égalité de tous les citoyens qui ne sont plus des sujets du roi, mais qui sont les citoyens, membres d'une nation, tous sur le même plan.
Un an plus tard, dans le souci d'organiser l'Église, le 12 juillet 1790 est adoptée la Constitution civile du clergé. En quoi consiste-t-elle ?
Alors, je crois qu'il faut raconter un petit peu cet enchaînement. Effectivement, l'État n'est plus sacré, mais ça ne veut pas dire séparation de l'Église et de l'État. Donc, on n'est pas encore en 1905. Qu'est-ce qui se passe en 1789 ? L'État manque d'argent, il est au bord de la banqueroute. Et que fait-il ? Eh bien, il nationalise tous les biens de l'Église. Ça, c'est à la fin de l'année 1789. Or, que se passe-t-il ? Eh bien, les biens de l'Église servaient au clergé à vivre. Bon, comment est-ce qu'il va vivre maintenant ? Pour compenser, on va trouver un système dans lequel le clergé, c'est-à-dire les prêtres, les évêques, vont être considérés comme des fonctionnaires, c'est-à-dire que c'est l'État qui va les payer. Et donc, il faut faire une loi qui réorganise l'ensemble du clergé. Mais c'est là que les révolutionnaires qui ont l'habitude de reconstruire complètement la France sur de nouvelles bases ne se contentent pas de dire « maintenant on va verser un salaire ou un traitement aux fonctionnaires du clergé ». Ils vont réorganiser l'ensemble et maintenant, eh bien, les évêques seront des prêtres élus par les électeurs du département et donc on repart complètement sur une autre base.
Les évêques comme les curés ?
Les évêques comme les curés seront élus selon un système donc démocratique et révolutionnaire. Mais le problème, c'est que cette loi, qu'on appelle donc la Constitution civile du clergé, va très loin. C'est-à-dire qu'elle remet en cause...
Oui, elle est déjà... C'est un texte assez long, hein, quand même, hein, 37 articles.
Tout à fait, qui réorganise les choses, mais d'une manière tellement révolutionnaire qu'au fond, les principes d'avant sont complètement oubliés. C'est-à-dire que l'Église ne dépend plus que d'une loi franco-française. Mm-hmm. Alors qu'avant, l'Église catholique, normalement, elle dépend quand même en partie du pape, puisque l'Église universelle coiffe en quelque sorte l'Église de France.
Dans ce texte, justement, l'investiture canonique n'appartient plus au pape.
C'est cela, donc les évêques, nouveau régime si on veut, oui. Les évêques révolutionnaires, qu'on appellera constitutionnels, voilà. Seront seulement élus et non pas confirmés par le pape.
Dans le texte aussi est prévu un élément qui a divisé en quelque sorte le clergé lui-même et la société aussi, c'est le serment à prêter à la nation.
En effet, donc les prêtres et les évêques dans ce nouveau régime du culte catholique devront prêter un serment. Et c'est là que...
Un serment à la nation,
à la nation,
au roi et oui. à la constitution.
Au roi, donc, parce qu'on est encore... voilà, tout à fait. Parce qu'on est encore en monarchie, hein, jusqu'en 1792, bien que Louis XVI soit pas tellement favorable à tout ce qui se passe. Donc, ce serment va être, là, une cause de division profonde, parce que, donc, le clergé qui... On va demander aux prêtres, au fond, ben voilà, maintenant, vous allez prêter serment. Il y en a à peu près la moitié qui refuse, et une moitié qui accepte. Et c'est le début d'une division qui va durer jusqu'à l'époque de Napoléon. L'Église se coupe en deux. Il y aura maintenant deux églises. Une église constitutionnelle qui accepte la loi, la constitution civile du clergé, avec tous ses aspects révolutionnaires, et une église réfractaire, c'est-à-dire qui est contre cette nouvelle loi, pour différentes raisons, le refus du serment, mais aussi parce que dans cette nouvelle loi qui réorganise l'église en France, le pape, le chef de l'église, aucune place.
J'allais vous demander comment fut-elle accueillie par le pape.
Alors, comment la révolution elle-même a été accueillie
déjà.
Par le pape. Et puis ensuite, comment la constitution civile du clergé a été accueillie à Rome. D'abord, la révolution, avec beaucoup d'étonnement et un peu d'incertitude. C'est-à-dire, on se demandait si ce régime allait durer ou est-ce qu'on n'allait pas revenir finalement au point de départ assez vite. Et puis au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que les révolutionnaires consolident leur œuvre. Et puis surtout, la constitution civile du clergé est très mal accueillie parce que justement, elle ne donne plus aucune place au pape dans l'organisation de l'Église catholique en France. Et évidemment, ça, c'était pas acceptable du tout à Rome. Et donc, en 1791, le pape envoie une lettre au roi des Français, puisqu'il a changé de titre,
voilà.
pour dire que justement, cette loi, la constitution civile du clergé, n'est pas compatible avec l'appartenance à l'Église catholique. Et à partir de ce moment-là, l'église réfractaire va devenir encore plus importante parce que beaucoup de prêtres, même ceux qui ont déjà prêté...
Il y a une
prêté...
radicalisation ?
Oui, il y a une forme de radicalisation et beaucoup de prêtres qui ont prêté le serment sans trop savoir, finalement vont revenir sur leur serment pour suivre la ligne fixée par le pape. Et donc la division de l'église en deux, qui sera suivie par une division de la nation entière en deux parties, va s'accentuer.
Cette constitution, donc, source de division au sein de la nation française, peut-elle être qualifiée ou pour autant de guerre religieuse ?
Alors, ce n'est pas vraiment une guerre religieuse, en ce sens que ce ne sont pas deux religions qui s'opposent.
Non.
Mais c'est plutôt la place de l'Église dans le nouveau régime politique. Est-ce que la nation, par ses députés, a le droit de régir seule l'organisation d'une Église qui, au fond, n'est pas uniquement française, mais qui dépend aussi de Rome, hein ? Donc c'est la grande question, mais surtout, ce qui va déclencher une lutte violente, c'est la guerre qui éclate avec les pays étrangers.
Alors, 1792 marque effectivement un tournant. D'abord par l'abolition de la royauté, du procès et de l'exécution du roi, de l'entrée en guerre, et très rapidement suivi par les premiers massacres des prêtres.
Tout à fait. Donc, dès septembre 1792, il y a des massacres de prêtres à Paris, dans le contexte justement de la guerre. C'est-à-dire que l'on craint à ce moment-là une invasion de la France par des pays étrangers. Or, à ce moment-là, et le même problème va se poser pendant toutes les années qui vont suivre, les prêtres, par exemple, qui sont contre la République, qui refusent tout ce que fait la Révolution à ce moment-là, dans quel camp sont-ils finalement ? Est-ce qu'ils défendent la patrie ou est-ce qu'ils défendent la République ? Ceux qui ne défendent pas la République vont devenir des traîtres à la nation. Et donc, on va se retourner contre eux comme s'ils étaient des complices de l'étranger, de ceux qui vont envahir la France. Et c'est là que ça devient très ambigu, la position religieuse va prendre une connotation politique très forte.
En 1792 aussi, la Convention décide de la laïcité de l'État civil. Comment cela se traduit-il dans les faits ?
Alors effectivement, donc, l'État civil, c'est-à-dire la déclaration des naissances, des mariages, de toutes les étapes de la vie humaine, est enlevé à l'Église et donc c'est l'État seul qui va maintenant en avoir la charge.
En 1794, Robespierre défend devant la Convention l'idée de l'être suprême, un nouveau culte. Pourquoi et sur quel fondement ?
Alors effectivement, autre étape, donc après la constitution civile du clergé, on arrive en 1793-94 à une politique de déchristianisation. Donc on ne cherche pas à réorganiser l'Église, on cherche à l'enlever complètement du paysage, en quelque sorte. Et même physiquement, en enlevant les cloches des clochers ou en détruisant les statues religieuses.
Enfin, tous les bâtiments n'ont pas été détruits, mais considérablement abîmés.
Et cela correspondait à une tendance. Mais même au sommet de l'État, les révolutionnaires n'étaient pas tous d'accord. Et Robespierre n'était pas du tout d'accord avec ceux qui étaient profondément athées. Et lui, pensait qu'il fallait qu'il y ait une religion. Alors, pas le christianisme, mais autre chose, parce que c'était utile à l'unité de la nation et à la vertu. Et donc, il a créé une religion qui n'a pas eu un grand succès, mais qui était celle de l'être suprême.
Alors, comment le pouvoir révolutionnaire passe-t-il de la persécution à la séparation avec la Première République en 1795 ?
1795, effectivement, après la chute de Robespierre, un nouveau régime est mis en place, c'est le Directoire, et qui proclame la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la constitution civile du clergé n'avait pas marché. marché. On s'est aperçu que la déchristianisation, ça n'avait pas marché non plus. On a essayé autre chose. Mais dans un esprit tellement hostile à la religion elle-même, hein, quand on regarde les déclarations, on s'est aperçu que cela ne pouvait pas être accepté, y compris par les catholiques. Et au bout de quelques années, ce régime lui-même a échoué.
Napoléon, qui est à la fois le fossoyeur et l'héritier de la Révolution française, confirme les grands principes révolutionnaires par sa politique concordataire. Il inaugure un équilibre, un compromis avec le pape, par la signature du concordat le 15 juillet 1801. Pouvez-vous rappeler brièvement ce qu'un concordat et nous donner, disons, le contenu de cet accord ?
Un concordat, c'est un traité, une convention diplomatique entre un État et le pape. Alors, quand Bonaparte arrive au pouvoir, il s'aperçoit que la France est divisée en deux, et s'il veut consolider son propre pouvoir et stabiliser la France, il faut régler la question religieuse, finalement. Il faut réconcilier les catholiques entre eux. Et donc, il trouve le moyen, c'est de faire un traité avec le pape lui-même. Alors, ce traité a un certain nombre de clauses. Les principales, c'est que l'Église renonce à revendiquer les biens qui avaient été nationalisés par la Révolution, et en échange, les prêtres seront comme des fonctionnaires payés par l'État. Et le point essentiel aussi, c'est la nomination des évêques. On renonce à faire élire les évêques par les électeurs du département. Bien maintenant, les évêques seront nommés par le chef de l'État, mais confirmés par le pape. Une double nomination, comme sous l'Ancien Régime, en fait.
Et quelques années plus tard, il a été augmenté et complété par ce qu'on appelle les articles organiques. En quoi consiste-t-il ? Parce que les articles organiques sont encore en vigueur dans certaines régions françaises. C'est pour ça qu'on va les évoquer maintenant.
Effectivement, le concordat est augmenté d'un certain nombre de lois qui réglementent dans les moindres détails la vie du clergé. Alors, le pape a beaucoup critiqué cette manière de faire, puisque c'est Napoléon qui l'a rajouté unilatéralement de lui-même, un certain nombre de règlements donc, qui empêchent, par exemple, pendant tout le 19e siècle, ça sera en vigueur, les évêques de se réunir sans l'autorisation du gouvernement, ou même de quitter la France pour aller, je ne sais pas, à Rome par exemple, sans l'autorisation du gouvernement. C'est interdit.
Enfin, pour finir sur cette émission, comment Napoléon, par exemple, a-t-il organisé et financé les religions minoritaires, protestantisme et judaïsme ?
Alors, c'est un point capital. Même s'il y a un concordat avec Napoléon, il n'y a pas une religion d'État. On ne revient pas à l'Ancien Régime. Il y a pluralisme des religions. C'est-à-dire que Napoléon dit qu'il faut que les citoyens puissent choisir la religion qui leur plaît et l'exercer dans les mêmes conditions. Donc, les pasteurs vont être rémunérés par l'État, comme les prêtres catholiques. Quand on va construire des temples et même des synagogues pour les juifs, eh bien c'est l'État qui va aussi contribuer. Et donc, pour chacune de ces confessions, de ces religions, il crée une organisation interne, une sorte de pyramide, hein, avec l'équivalent des prêtres, des curés et des évêques, mais pour, par exemple, pour les rabbins, les grands rabbins, avec un consistoire, pour avoir un interlocuteur et organiser dans l'État les différentes religions.
Yves Brûlé, merci pour avoir retracé devant nous toutes les étapes de la Révolution française et les bouleversements importants qu'elle a induits sur les rapports entre l'État et les Églises dorénavant. Merci.